Figaro Radio.
Le club, le Figaro Politique.
Yves Tréhard.
Avec Judith Van Drobe, qui est grand reporter au Figaro. Avec Richard Furin, qui est du service politique du Figaro. Merci d'être parmi nous. Avec Alexandre Devecchio, vous retrouvez souvent sur le Figaro TV, et qui dirige les pages débat et opinion du Figaro. Et puis avec Frédéric Dabi, qui dirige le service opinion de l'IFOP, qui nous donne régulièrement, régulièrement, tous les jours, le sondage Rolling pour les européennes. Frédéric, est-ce que c'est payant pour la France insoumise de faire un tel chambard dans les universités ?
L'avenir le dira, leur score aux élections européennes, ou pour l'instant dans notre rolling IFOP fiducial pour LCI, Figaro et Sud Radio, clairement la liste insoumise est à la peine, elle est à peine à son étiage de 2019, elle avait fait 6,3%. C'est vrai que où sont les enjeux européens, où est la campagne européenne quand on est monothématique, à savoir la cause palestinienne.
Ils ne sont pas les seuls, remarquez.
Oui,
hein.
Mais c'est chacun
son couloir.
Oui, mais c'est quand même très très, très, très net. C'est un sujet qui, dans une enquête d'un de mes confrères, était un des sujets les moins discutés et un sujet qui n'intervenait pas comme déterminant du vote. Voilà, il y a peut-être aussi un agenda caché de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas oublier que cette élection a une spécificité. C'est la seule élection à dimension nationale du quinquennat. Donc elle va directement ouvrir peut-être sur la pré-campagne présidentielle. Il y a un électorat que Jean-Luc Mélenchon veut mobiliser, c'est celui des quartiers, des Français de confession musulmane. 69% des Français de confession musulmane ont voté Mélenchon, donné IFOP fiduciale pour le Figaro en 2022. Mais très clairement, les Français sont très abasourdi, voire en colère par rapport à cette posture. Je rappellerai que Jean-Luc Mélenchon est l'homme politique le plus impopulaire de France après Éric Zemmour. Et très clairement, les Français sont une majorité à considérer que ses positions sur le conflit israélo-palestinien les mécontentent. 82% dans une enquête pour le CRIF, y compris son électorat.
Alors, Alexandre, pourquoi faire ça alors ?
Je suis d'accord avec Frédéric Dabi, je crois qu'il se moque un peu des élections européennes et qu'il travaille pour le long terme, voire le très long terme. Le plus long terme, c'est effectivement...
Est-ce que c'est pas dangereux ?
Ça peut être dangereux si jamais Raphaël Glucksmann rattrape la liste de la majorité. Là, ça en fera un candidat potentiel pour l'élection présidentielle. Mais on a vu que la dernière fois, en 2019, Jean-Luc Mélenchon avait fait moins que ce qu'on lui prédit là dans les sondages. Il avait fait 6,5. Jadot avait fait 12,5, 13, exactement le score qu'on promet à Raphaël Glucksmann.
Et trois ans après,
Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à la présidentielle et Jadot était en dessous de la barre des 4%. Donc je pense qu'il l'a en tête, Jean-Luc Mélenchon, et donc il travaille pour deux échéances. À plus court terme, je dirais, c'est la présidentielle, effectivement, il voudra mobiliser l'électorat des banlieues, ce qu'il avait très bien réussi à faire la dernière fois où il avait fait des scores de président africain en Seine-Saint-Denis. Et donc reproduire la même chose, il lui a manqué quelques centaines de milliers de voix la dernière fois, il espère les obtenir cette fois-ci. Et puis il y a un pari à très long terme, je pense, un pari démographique pour ces quartiers de banlieue qui vont peut-être grossir, c'est des quartiers très jeunes. Et ensuite, pari démographique aussi sur la jeunesse, à travers les Sciences Po, à travers les étudiants. Donc un vote pari sur la gauche de demain, qui a priori ne sera pas une gauche social-démocrate, mais une gauche communautariste, à l'américaine. Et donc je crois que c'est le pari qu'il fait pour le futur Jean-Luc Mélenchon, et que l'élection européenne n'est pas son problème immédiat.
Alors Judith, on entend parfois, oui, mais il a un discours vis-à-vis de la jeunesse, il essaye de draguer la jeunesse, mais ce n'est pas la jeunesse qu'il essaye de draguer, c'est une toute petite partie de la jeunesse, parce que justement, la jeunesse, si on observe les sondages, vote plutôt pour le Rassemblement national.
Oui, c'est une fraction de la jeunesse, et même parmi l'électorat musulman, l'abstention est beaucoup plus forte que le vote, les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Donc il faut se méfier d'une erreur de perspective. Il faut replacer les choses selon leurs proportions. Pour lui, pour le moment, les intentions de vote qui lui sont prêtées sont plutôt un échec, même si c'est supérieur au score qu'il a obtenu en 2019. Et en plus, vous le disiez à juste titre, c'est vraiment une fraction de la jeunesse. Et d'ailleurs, il ne faut pas, à mon avis, commettre l'erreur sémantique de dire il ne s'intéresse qu'à la cause palestinienne. Son sujet, c'est la cause palestinienne. Son sujet, c'est la cause anti-israélienne, la cause anti-sioniste. S'il s'intéressait à la cause palestinienne, par exemple, il se serait ému du sort des Palestiniens qui sont exécutés, sur lesquels le Hamas a fait tirer à balles réelles l'été dernier quand il manifestait contre ce mouvement terroriste qui a instauré une chape de plomb sur Gaza depuis 2007. Ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est le sionisme, Israël et la destruction d'Israël.
Alors, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme derrière ça, Richard ?
C'est une question difficile à trancher. Pour prolonger ce que vient de dire Judith...
Non, mais on ne va pas l'éviter. Hein.
J'y reviens. C'est assez récent, en fait, que Jean-Luc Mélenchon s'intéresse à la question de la Palestine et du conflit israélo-palestinien. Il s'en occupait assez peu avant le 7 octobre, donc il y a de fait une question d'opportunisme électoral. C'est difficile. De fait, il rappelle très souvent, Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'a jamais été condamné pour des propos qui tomberaient sous le coup de l'antisémitisme. Malgré tout, il y a un discours qui entretient souvent un certain flou. Et donc, voilà. C'est...
Parce qu'on pourrait se dire, bon, d'accord, ok, les Palestiniens, on connaît la rhétorique, hein, un peuple opprimé, tout ça, mais pourquoi ils ne parlent pas des Ukrainiens qui sont envahis par les Russes ? Pourquoi ils ne parlent pas des Congolais qui sont la victime de bandes pilotées depuis Kigali au Rwanda ? Pourquoi ils ne parlent pas des Ouïghours ? Pourquoi ils ne parlent pas ?
Ou des civils syriens ?
Essentiellement, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il y a de l'antisémitisme ?
Et pourquoi Rima Hassan ne parle pas des civils syriens ?
Voilà,
elle qui se présente comme une réfugiée palestinienne.
Dont on ne connaît pas d'ailleurs le passé.
Dont le parcours a l'air assez flou et qui n'a jamais un mot pour condamner le régime syrien. Elle se rend sans cesse en Syrie. C'est une influenceuse au service de la Syrie sur les réseaux sociaux. Mmh. On a retrouvé des posts d'elle qui sont tout à fait clairs. Je ne parle pas d'agent de la Syrie, je parle d'influenceuse. Ce n'est pas un poste officiel, c'est peut-être volontaire, c'est peut-être pas rétribué, mais vraiment... l'approbation permanente et l'absence totale de critique du régime syrien interroge pour le moins.
Alors, Frédéric, la Sorbonne a occupé la une de l'actualité, pas la Sorbonne, le Sciences Po, et maintenant la Sorbonne, qui est fermée d'ailleurs, alors nous parlons depuis 13 heures, est-ce que là, il y a peut-être... est-ce que ce mouvement va se propager sur l'ensemble de l'enseignement supérieur ? C'est quand même un signe, hein. La Sorbonne, oui. C'est pas rien.
La Sorbonne, ce n'est pas rien. Sciences Po, ce n'était pas rien. Et on a vu, bien sûr, des députés insoumis derrière, y compris le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Ça a été dit, hein. Il y a vraiment une stratégie du côté de la France insoumise. Les multiples conférences, il y en a eu certes deux qui ont été interdites, mais Jean-Luc Mélenchon en a tenu, je crois, ces derniers mois, une vingtaine dans différentes universités. C'est une France des étudiants, une France de la jeunesse, qui est une partie seulement de la jeunesse. Hein. N'oublions pas que le premier comportement électoral des jeunes, et c'est bien dommage, c'est l'abstention. On est dans un contexte où le 10 avril 2022, pour la première fois lors d'une élection présidentielle, les primo-votants, c'est-à-dire les jeunes qui votent pour la première fois, ont été 41% à ne pas voter, alors que traditionnellement, les primo-votants votent massivement à une présidentielle, même tendanciellement autant, voire plus que l'ensemble des Français. C'est cette jeunesse qui est très préoccupée par la question palestinienne, pardon de le dire, qui ne connaît pas l'histoire, y compris Mathilde Panot, lorsqu'elle a été interrogée par vos confrères du Sénat, qui ne connaît pas le Jourdain, la Cisjordanie, la Transjordanie, qui assène le discours de la rivière à la mer sans savoir que ça veut dire l'annihilation et la destruction d'Israël.
Ou la crédité de sa
Non, je parle des étudiants, dis d'une manière générale. Et c'est vrai que dans les enquêtes qu'on a faites, par exemple, pour le CRIF, où on suit tous les deux mois le regard des Français sur le 7 octobre, il y a une fracture générationnelle où d'un côté, l'ensemble des Français sont une majorité à dire que le but de guerre d'Israël, à savoir éliminer le Hamas, est justifié. On a une très forte majorité de Français qui considèrent, qui se sentent proches du peuple israélien. Et on a deux fractions qui sont en décalage, à voir par exemple les actions du Hamas comme des actes de résistance. Les sympathisants de la France insoumise, pas l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui est plus fracturé, et les jeunes de moins de 25 ans.
Alexandre Devecchio, est-ce que la réponse des autorités est à la hauteur de ce qui se produit actuellement? Notamment, alors, il y a les autorités, il y a l'État, il y a le ministre, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et puis il y a aussi la direction de l'école sur Pau. Hein.
L'État, si vraiment ils veulent faire de l'autorité et prendre leurs responsabilités, ils peuvent mettre Sciences Po sous tutelle, ça a été proposé, donc on verra si la réponse de l'État est à l'auteur. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Pour ce qui est du communiqué de Sciences Po, il y avait quelque chose d'un peu pathétique là-dedans, de dire il n'y aura pas de sanctions.
Ils effaçaient les sanctions.
Ils effaçaient, et on voit bien que ça n'a pas fonctionné, puisque c'est en train de se propager à la Sorbonne à l'heure où on parle. Donc il y a un signal de faiblesse et de laxisme, effectivement, qui a été envoyé de la part de la direction de Sciences Po. Et ça s'inscrit dans une lente évolution, parce que Richard Descoings, qui d'ailleurs à l'époque était plutôt...
L'ancien directeur de Sciences Po.
Oui, très très prestigieux, qui à l'époque était plutôt...
Qui a réformé l'école.
Oui, a réformé l'école, qui était plutôt l'ami de Nicolas Sarkozy, l'a réformé justement dans le sens pour s'inspirer des grandes écoles américaines, avec déjà tout un discours communautarisme. Il a fait le Hijab Day, il faut quand même le savoir, à Sciences Po.
Donc, en 2015.
Ça commence comme ça, vous voyez, et ça finit dans une logique totalement islamo-gauchiste qu'on connaît aujourd'hui. Donc la direction de Sciences Po n'est pas à la hauteur, et je dirais qu'elle ne l'est pas depuis longtemps. Pour répondre très rapidement à une question que vous avez posée tout à l'heure sur l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si lui l'est, mais en tout cas il tente de s'adresser à un électorat qui l'est. On sait depuis le livre de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République, qu'hélas, en banlieue, dans un public d'origine maghrébine notamment, enfin chez beaucoup de musulmans, il y a un antisémitisme culturel, et il vise cet électorat-là, et c'est particulièrement grave dans un contexte où il y a un antisémitisme meurtrier en France. Je ne rappelle pas Ilan Halimi, Sarah Halimi, les victimes de Mohamed Merah, et bientôt. Donc ils visent ceux-là, et je dirais d'autres, je ne sais pas s'ils sont antisémites, mais en tout cas ils sont anti-occidentaux, c'est ceux de l'université ou des grandes écoles, ils sont dans une logique woke qui fait du mal blanc occidental, puis c'est comme ça qu'ils parlent, le bouc émissaire, le coupable de tous les maux de la société, et qui fait justement de l'immigré ou du musulman une victime dans tous les cas, même lorsque c'est le Hamas du 7 octobre. Et donc c'est ces deux catégories-là que vise Jean-Luc Mélenchon, et donc c'est particulièrement inquiétant justement pour la cohésion nationale.
Alors, Richard Fleurin, est-ce que il y a une unanimité à l'intérieur de la France insoumise autour, justement, de cet activisme pro-palestinien ?
Non, pas du tout. Il y a quelques différents, déjà.
Il y a des voix dissonantes ?
Exactement, qui préexistaient au 7 octobre. C'est les frondeurs, donc Raquel Garrido, François Ruffin aussi. François Ruffin, singulièrement, qui est un candidat putatif pour 2027, et qui, lui, aimerait qu'on parle davantage des questions sociales. Il vient d'écrire un livre sur le travail, les souffrances au travail, etc. Donc, il aimerait, typiquement, lui, qu'on parle davantage de ces questions-là.
Pour autant, il ne s'est jamais exprimé contre Mélenchon.
Oui, mais c'est parce que, vous avez tout à fait raison, c'est une position un peu compliquée. C'est un parti qui est extrêmement centralisé autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon. On voit que dès que certaines personnalités essayent de faire des échappées, ils sont tout de suite rattrapés par le col, ou alors congédiés, répudiés sur les boucles internes du parti. Donc, c'est difficile. Lui, c'est sûr qu'il il est hésitant. On ne comprend pas très bien qu'il y a ça se traduit, mais c'est un autre sujet. Et même, j'ai un certain nombre de députés insoumis qui me disent en off, comme on dit, donc jamais sans assumer publiquement leur opinion, qui disent qu'il faudrait parler davantage des questions sociales, qui sont des questions fondamentales dans le logiciel.
Alors, ils contournent le sujet, en fait. Ils ne condamnent pas, mais ils disent qu'il faudrait parler d'autre chose.
Non, oui, parce qu'ils ont toujours un mot pour dire que, totalement à l'unisson des mélanchonistes et de Mélenchon lui-même, qu'il faut condamner ce qui se passe à Gaza, etc.
Judith, impossible qu'à l'intérieur de la France insoumise, le leadership de Jean-Luc Mélenchon soit remis en question.
La France insoumise est organisée de telle façon qu'il ne peut pas y avoir d'expression d'opposition au chef tolérée. La France insoumise n'est pas un parti. C'est une association avec... je ne voudrais pas dire de bêtises parce que j'avais encore enquêté sur le sujet, mais ça doit être 6 membres ou 7 membres qui sont Mélenchon et ses proches. Il n'y a pas de, statut légal de l'adhérent de la France insoumise. Les candidats, les investitures ne sont pas données par des assemblées démocratiques. Le programme est fait par Clémence Guettet dans son coin en liaison directe avec Jean-Luc Mélenchon. C'est Julien Drey qui m'avait raconté une anecdote que je trouve tout à fait éclairante. Il avait interrogé Mélenchon. Vous savez que Drey et Mélenchon ont fait un bout de chemin ensemble au Parti Socialiste, en disant à Mélenchon, mais comment tu veux faire pour piloter un parti comme ça, sans statut, sans procédure, comment tu fais? Et Mélenchon a pris son portable et il lui avait montré en disant, avec ça.
D'accord. Tout est dit. Donc, les élections européennes, cher Frédéric, c'est un passage pour eux. Pour Jean-Luc Mélenchon.
Ça n'a jamais été une élection très forte.
Il l'a dit d'ailleurs, le début de la présidentielle.
Systématiquement, en celle de 2014 après la présidentielle de 2012, jamais les bons scores de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, même s'il a systématiquement échoué pour accéder au second tour, ne s'est confirmé à l'élection européenne. Là où il y a une vraie différence, je répète, par rapport aux élections européennes précédentes, c'est qu'il n'y aura pas avant 2027 d'élection régionale. Il n'y aura pas d'élection nationale, sauf bien sûr dissolution que personne ne peut envisager de manière certaine autour de cette table. Et c'est vrai que le rapport de force qui sortira à gauche le 9 juin pourrait avoir peut-être plus d'impact. Alexandre a raison de rappeler le précédent 2009, le précédent 2019, où les écologistes disaient « ça y est, c'est nous sommes les premiers à gauche » et ça ne s'était jamais confirmé parce qu'entre-temps, il y avait eu des élections nationales, les régionales, et bien sûr, la présidentielle n'est pas de même nature. Là, ça pourrait changer si, on va dire, l'axe social-démocrate fait deux fois plus que l'axe de la gauche radicale. Mais il reste toujours cette magie présidentielle. Si je prends comme exemple notre dernier sondage, Ivoire Fiducial pour le Figmag et Sud Radio, où on voit que la gauche est dans l'incapacité systématique, malgré 9 hypothèses de premier tour, pour se qualifier au second tour. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive systématiquement en tête à gauche, avec entre 13 et 16%. C'est l'homme le plus riche du cimetière de la gauche, mais c'est quand même celui qui est dominant à gauche.
Et il part de plus haut que les fois d'avant. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc il n'est pas du tout affaibli. Je crois qu'il était parti de 10% pour finir à 22% la dernière fois. Et je rejoins ce que vous dites. Particulièrement, moi, je pense qu'il faut que l'écart soit très net pour Raphaël Glucksmann, pour que ça se pose. Mais dans les cas précédents, effectivement, il y avait eu des élections après, mais en fait, les écolos avaient quand même confirmé aux municipales, etc. Jean-Luc Mélenchon n'avait pas fait de bon score à aucune élection intermédiaire. Ça ne l'a pas empêché, effectivement, d'être très largement en tête à gauche, parce que l'élection présidentielle est une autre élection qui repose sur une personne. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon reste le plus charismatique de tous.
Bon score que quand il réussit à convaincre le reste de la gauche de le soutenir.
Exactement.
En fait, c'est aussi
par
simple
force,
que
quasiment,
ça.
Parce que parce qu'il est le plus fort en campagne.
Alors, il y en a un autre qui... une autre liste qui, elle, en revanche, beaucoup de mal et qui aimerait bien mieux figurer, parce que cette élection, pour elle, est importante, c'est évidemment le camp et la majorité présidentielle, avec une liste qui dégringole dans les sondages. Un dernier sondage qui vient d'être publié cet après-midi pour Le Monde, est à la liste de Mme Heyer est à 16%, alors que ce monsieur Glucksmann pour le Parti Socialiste est à 14%. Donc le croisement, le fameux croisement, eh bien, peut-être arrivera-t-il un jour. On ne peut pas vous passer d'image, malheureusement, on ne peut pas vous passer d'homme ou de femme politique de cette liste qui s'exprime, parce qu'il y a les histoires de temps de parole. En revanche, ce que vous savez, c'est que le président de la République a fait un grand discours sur l'Europe, aussi pour aider sa liste jeudi dernier, mais c'est que ça n'a servi absolument à rien.
C'est ce que j'allais dire, en fait. Les Français n'ont pas parlé de ce discours, ils semblent être passés totalement en dehors des radars médiatiques. Moi, je pense que c'est d'abord parce que c'était très long, très compliqué, très complexe, c'était des sujets un peu techniques, et qu'il a essayé à la fois de s'adresser à ses partenaires européens et à la nation, à la France qui va voter dans... Et donc ça faisait une espèce de mélange des genres un peu étonnant, et même sa citation d'entrée, son propos choc de dire « l'Europe est mortelle », mon avis, ça n'a pas suffi à passer le mur du son médiatique.
On voit dans les sondages que la priorité chez les Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, c'est ces sujets-là, pas du tout l'Europe. Donc, en fait, il s'est trompé, non ?
Non, on ne peut pas dire qu'il se soit trompé. C'est normal qu'un président de la République, à quelques semaines des élections européennes, parle d'Europe. Alors, quand même, le regard sur l'Europe par rapport à l'élection de 2019 a quand même changé. En 2019, on était dans le contexte post-Brexit, où quand on interrogeait les Français sur un souhait de Brexit, on était à 40-45% de oui. Là, on est à peine à 15-20%. Les Français ont vu l'Europe agir plus ou moins bien, mais ils l'ont vu plus incarné pendant le Covid et pendant du fait de cette guerre en Ukraine après l'invasion russe. Donc l'euroscepticisme, c'est quand même relativement affaibli. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une campagne, et le Rolling Info Fiduciel le montre, où les enjeux nationaux prennent le pas sur les enjeux européens. La question du pouvoir d'achat, la question de l'insécurité, la question de la dette, et tout ça fait mal à la majorité. On est dans un contexte d'impopularité très fort pour le président. En 2019, il sortait du grand débat, il incarnait l'ordre et la sécurité pour un électorat de droite après le mouvement des Gilets jaunes. Là, l'émetteur Macron est très fortement démonétisé. Et c'est vrai que ce qu'on a vu en 2004, en 2014, c'est-à-dire utiliser son bulletin de vote pour sanctionner le pouvoir, est une réalité chez beaucoup d'électeurs, et c'est la difficulté pour cette liste, et pas seulement le fait que Valérie Hayer soit très peu connue et que sa liste soit pas encore complètement composée. Beaucoup de Français vont voter pour ou contre Macron dans le cadre de ce scrutin.
Alexandre, d'accord avec ce... C'est un référendum pour ou anti-Macron ?
Je ne sais pas si c'est un référendum, mais en tout cas, je crois que son discours à la Sorbonne, effectivement, a eu aucun effet, et peut-être même un effet contre-productif, parce qu'effectivement, il est président depuis quasiment deux quinquennats maintenant, qui a un très fort anti-macronisme, et en fait, à chaque fois qu'il prend la parole, il mobilise ses adversaires. Donc si ça a eu un effet, à mon avis, il est contre-productif. Et puis, si vous voulez, dans les gens qui se reconnaissent dans le bloc central, je pense qu'ils peuvent se dire, pour les européennes, on peut aller voir ailleurs. C'est pas la même chose qu'une élection présidentielle, c'est un vote à la proportionnelle, donc les gens vont se faire plaisir. Et je pense qu'il perd surtout Emmanuel Macron au centre-gauche, où les gens vont voir Raphaël Glucksmann, vont se tourner plutôt vers Raphaël Glucksmann. Maintenant, est-ce que ce centre-gauche-là ira vers Raphaël Glucksmann s'il est candidat à la présidentielle la prochaine fois? Il faut déjà qu'il le soit. La question se pose un peu comme... c'est la même question que tout à l'heure. Moi, je crois que pas forcément que Glucksmann puisse être une figure présidentielle. Et donc, je pense que là, on va avoir un vote de mécontentement de ceux qui se tournaient plutôt vers le bloc central, mais que ça ne laisse pas forcément préjuger, par exemple, d'un retour de la gauche socialiste pour les présidentielles. Mais ce qui est vrai, c'est que le président de la République est complètement démonétisé. Et comme de toute manière, il ne va pas se représenter, les choses vont se passer désormais sans lui. Il faut maintenant que le bloc central trouve une figure charismatique, et ça ne va pas être facile non plus, parce que personne ne se dégage, ils n'ont pas de candidat naturel.
Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord au fait que la social-démocratie, ben finalement, elle n'est pas en train de renaître un peu de ses cendres, là, actuellement ?
Non, mais je crois que, pour en revenir quand même aux motivations de vote, qui sont ce qui va jouer dans l'immédiat, vous parliez du pouvoir d'achat comme première préoccupation dans tous les segments de l'électorat, y compris le segment musulman, d'ailleurs. Il place aussi le pouvoir d'achat en première préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé pour les gens du point de vue européen? La crise de l'énergie avec l'explosion des prix, et la crise agricole avec le tollé, la révolte des paysans contre les oukases de Bruxelles. Donc, l'image de l'Europe s'est dégradée, et Emmanuel Macron qui continue à faire en même temps, a complètement compris le message et est devenu le premier pourfendeur de la bureaucratie européenne des normes qui écrasent les paysans. Il est devenu le plus grand défenseur de l'énergie atomique dans ce fameux discours qui était extrêmement intéressant, en fait.
Ben oui.
Pour qui il voulait bien l'écouter, avait le temps de l'écouter.
Et pour un certain public.
Et ouais. Pour un certain public sur l'Europe.
Il est bien là le problème.
Et il nous annonce que l'Europe doit être l'Europe de l'atome. Il dit il faut décarboner, énergie renouvelable ou énergie nucléaire, on s'en fiche. Il dit ça en discours. Il faut se rappeler quand même que c'est le président qui a fermé Fessenheim et qui avait un programme de réduction drastique de nos centrales nucléaires. Donc, tout ça pour dire que des éléments extrêmement négatifs sur l'Europe ont émaillé ces derniers mois, et que Emmanuel Macron, dans son en même temps qui perd tout le monde, a un point fixe quand même, c'est de croire à l'Europe et de défendre l'Europe, donc de s'identifier à l'Europe.
Alors, ce qui est patent aussi, c'est qu'en dehors d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de poids lourd dans le gouvernement. Darmanin joue à cache-cache avec les médias, Bruno Le Maire est empêtré dans des histoires de déficit et de dette. Donc, il n'y a pas beaucoup. Le Premier ministre est sur la sécurité. Il n'y a pas de poids lourd qui ait pris le bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des électeurs, sachant que la tête de liste, Mme Valérie Ayer, est quelqu'un qui n'est pas très connu.
Exactement. Moi, je pense que c'est une forme d'attentisme.
Ouais.
Au vu des sondages, a priori, il n'y aura pas de... Voilà, le score sera bas, le bilan sera un peu maussade pour la majorité présidentielle. Et donc, ils se disent... Et tout se jouera, on l'a déjà dit. Enfin, Alexandre l'a dit, Emmanuel Macron sera plus candidat en 2027. Et c'est une espèce de c'est une élection de mi-mandat, après, c'est des mid-terms. Donc il y a une sorte d'attentisme, on attend, on est tapis dans l'ombre avant de pouvoir sortir, après peut-être les élections européennes. Et avant, personne ne veut endosser, parmi les poids lourds, les présidentiables de la majorité présidentielle, personne ne veut endosser l'échec.
Il faut juste rajouter, je trouve, à ça, qu'il y a quand même une personnalité montante qui aurait pu jouer ce rôle, c'est Gabriel Attal.
Oui,
Premier ministre apprécié lors de sa nomination et qui tient pas mal, en tout cas, en termes de popularité. Mais tout est fait pour lui saboter. Savonner la planche. Au même moment, on a déjà parlé de Sciences Po, mais au moment même où lui, à Piriou, en visite à Piriou, disait « No passaram, nous ne tolérons pas, machin », en parlant du blocage de Sciences Po et des slogans anti-israéliens, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, approuvait la direction provisoire de Sciences Po d'avoir cédé aux revendications de ces manifestants. Donc, comment voulez-vous que Gabriel Attal puisse incarner le bloc central si le bloc central ne lui permet, enfin, s'il est sapé de l'intérieur ce bloc central?
Je partage ce que dit Judith, c'est vrai que l'émetteur Attal est beaucoup moins abîmé qu'Emmanuel Macron, et puis je pense qu'il n'a pas le choix, il va devoir entrer dans cette campagne, parce que au soir du 9 juin, si la majorité, comme notre ligne le dit, a un score relativement faible, ou en tout cas très inférieur à la liste Jordan, le fait que la liste de la majorité rattrape la liste RN paraît vraiment une véritable utopie.
Oui.
Il sera comptable. On parlera de votre sanction vis-à-vis du président et vis-à-vis du gouvernement. Alors, sur la capacité de Gabriel Attal d'incarner le bloc central, notre enquête pour le Figaro Magazine montre qu'il est plutôt pas mal placé en termes d'intention de vote présidentiel, alors qu'il n'a pas fait le moindre pas vers une candidature. Il est derrière Édouard Philippe, mais il a un socle qui est relativement intéressant. Il y a peut-être aussi, et il a fait dire ce jour qu'il était prêt à affronter Jordan Bardella, c'est peut-être un moyen. Le débat n'aura pas d'importance en tant que tel, mais de remobiliser le socle présidentiel, puisque tous les jours dans notre rolling, on voit que la liste de la majorité peine à rassembler les électeurs d'Emmanuel Macron du 10 avril 2022. Elle en capte entre 50 et 60%. C'est très loin de l'objectif affiché.
Alexandre, un mot encore là-dessus ?
Bah, peut-être pour abonder dans ce sens et montrer que parfois la politique, ce n'est pas toujours rationnel. C'est aussi une question d'homme et de tempérament.
C'est rarement rationnel.
La rationalité, d'ailleurs, que semblait avoir compris Emmanuel Macron en nommant Gabriel Attal aurait été de lancer Gabriel Attal et de le laisser faire campagne. Simplement, c'est effectivement une question d'homme et de tempérament. Et Emmanuel Macron a été rattrapé par son narcissisme. Il ne peut pas s'empêcher d'être à l'avant. Et je le redis, moi, je pense que c'est un boulet aujourd'hui pour son propre camp et que le discours de la Sorbonne n'a pas permis de marquer des points et sans doute d'en perdre. Et en réalité, Gabriel Attal va peut-être entrer en campagne, mais sans doute trop tard. Et donc, il va griller son Premier ministre pour rien. Et donc, ça va être très intéressant pour la présidentielle parce qu'encore une fois, aucun candidat se dégage nettement, pas même Édouard Philippe. Et là, on en revient à Jean-Luc Mélenchon et je pense que c'est ce qu'il a en tête. Tout le monde pense au deuxième tour, comme si le Bloc central était déjà au deuxième tour. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon peut aller au deuxième tour.
Richard Fleurin, si jamais le score est aussi catastrophique que ça pour la majorité présidentielle, Attal pourrait être sacrifié ?
Ah, ça semble compliqué. Après, il y a quand même la saison d'automne où il y aura
Les
Jeux Olympiques, exactement, vous avez raison. Il y a d'abord les Jeux Olympiques, après il y a l'automne avec le vote des budgets et donc l'utilisation du 49-3. Mm-hmm. Donc ça risque d'être compliqué, mais peut-être qu'au-delà au-delà de l'automne et début 2025, peut-être qu'il faudra en changer.
Un seul petit élément, dans l'histoire des élections européennes, jamais un Premier ministre a quitté son poste au lendemain d'un scrutin européen. Ça s'est fait au lendemain d'élections municipales, par exemple Jean-Marc Ayrault, ou au lendemain d'élections régionales.
Mais quand Rocard fait le même score
il n'est plus déjà au gouvernement.
Il ne change pas le Premier ministre. Ouais, pour voilà,
et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que Emmanuel Macron, et c'est pas bon signe pour lui, fait un peu la même erreur que François Hollande. Je n'avais jamais compris pourquoi François Hollande nommait Manuel Valls 6 mois avant les européennes, sans doute dans l'espoir de se refaire, ça ne marche jamais.
Trois mois avant,
et là, il fait la même chose. Il aurait mieux fallu laisser Elisabeth Borne encaisser une défaite jusqu'au bout pour redonner un élan au quinquennat. Après, là, ce sera très difficile, après cette défaite, pour redonner un élan.
Alors, il y en a un autre qui cherche un élan, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a lancé sa campagne, mais peut-être que sa campagne s'est lancée elle-même, d'ailleurs, sa compagne, dans la bagarre des européennes, puisqu'elle est numéro 3 maintenant sur la liste de Reconquête. Elle s'est exprimée à la télévision cette semaine, enfin la semaine dernière, ce week-end. Vous nous faites un point, Frédéric, sur Reconquête. En fait, ça stagne.
Oui, ils sont encalminés entre 5 et 6%, hein, 6% dans notre rolling du jour. Alors, bon, on aurait pu imaginer qu'après la non-victoire à l'élection présidentielle, le fait que Reconquête ait zéro député au législatif, dans un contexte de forte croissance et de dynamique RN, que Reconquête ne soit qu'une parenthèse et que ça s'effondre. Ce n'est pas le cas. Il y a un socle qui est bien là. 6%, c'est à peu près l'étiage du score présidentiel d'Éric Zemmour. Alors, il y a la barre fatidique éliminatoire en termes de députés des 5%. Ce que l'on voit dans notre rolling depuis son lancement, c'est une hésitation très forte des électeurs Éric Zemmour entre la liste Marion Maréchal et le fait de voler au secours de la victoire, si je puis dire, et de choisir Jordan Bardella. Et là, depuis quelques jours, on a davantage d'électeurs Zemmour qui vont mécaniquement sur le vote Marion Maréchal. Sarah Knafou a plutôt fait une bonne prestation. C'est toujours intéressant quand il y a d'autres voix que la seule Marion Maréchal. Ça rééquilibre peut-être le fait d'entendre beaucoup Éric Zemmour qui peut-être pourrait gêner l'incarnation Marion Maréchal. En tout cas, il y a une compétition pas seulement avec le RN, mais avec LR parce que également il y a une sorte de volatilité entre des électeurs d'Éric Zemmour ou des électeurs même de Valérie Pécresse qui hésitent entre un vote LR et un vote Zemmour, même si pour l'instant, la liste LR avec 8% est devant, mais 2 points, c'est rien quand la campagne n'a pas vraiment commencé, devant la liste Zemmour, la liste Maréchal.
Alors, il y a une particularité qui est très bien signifiée dans le sondage de cet après-midi dans Le Monde, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le mot « souveraineté ». Le mot « souveraineté » est donc soumis à l'appréciation des sondés, il y a quelques 13 000 sondés, souveraineté, alors là, ça résonne aux oreilles des électeurs de Reconquête, puisqu'ils sont quelques 60%, 65% à considérer qu'il est capital, ce mot.
Oui, mais ça, le problème, c'est que ça résonne, j'ai pas vu le détail du sondage, mais ouais. très logiquement, ça doit résonner aussi aux oreilles des électeurs du RN.
Beaucoup moins. Ouais, ah mais, non, c'est très intéressant.
Ben alors, c'est peut-être, vous touchez peut-être du doigt l'une des erreurs de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, et même de cette campagne européenne, puisque Éric Zemmour a visé plutôt... il est souverainiste à la base, hein, Éric Zemmour, mais il a fait une campagne finalement de conservateur, d'identitaire plutôt... Très peu de choses sur le plan social, ou en tout cas c'était inaudible, et finalement en se disant la question prioritaire c'est l'islam et l'immigration, et je parle un peu moins de l'Europe et de la souveraineté. Or son électorat, si ce sondage est juste, était prêt à l'entendre. Tout ça pour dire qu'il n'a pas vraiment aujourd'hui d'espace politique. Moi je crois que c'est la difficulté d'Éric Zemmour. Certains disent il aurait peut-être été meilleur que Marion Maréchal ou l'inverse. On voit bien que la difficulté c'est que aux législatives, Marine Le Pen a fait 90 députés, ce que personne n'attendait. Elle se professionnalise. On a le sentiment que pour la première fois, elle est en capacité de gagner l'élection présidentielle. Et donc Éric Zemmour apparaît quasiment comme un empêcheur de tourner en rond et quelqu'un qui pourrait la gêner. Donc on dit il n'y a pas de vote utile aux européennes parce que c'est de la proportionnelle. Donc on peut se faire plaisir. Mais je crois que malgré tout, dans la tête des électeurs, beaucoup se disent autant donner de la force à Marine Le Pen avant la présidentielle, d'autant qu'elle est coutumière d'être très forte dans les sondages, et ça sera intéressant de voir. Avant les régionales de la dernière présidentielle, on attendait 2, 3, voire 4 régions pour le Rassemblement national. Elle n'en a eu aucune, ce qui a effectivement eu un effet démobilisateur pour la présidentielle. Donc là, moi, beaucoup d'électeurs peuvent être tentés de mettre Jordan Bardella au-dessus de 30% pour mobiliser leur camp, le camp national, avant la présidentielle, et de se dire que Éric Zemmour n'est plus en capacité d'y arriver. D'ailleurs, je pense que le sens de sa candidature, il l'avait dit lui-même, c'était de remplacer en quelque sorte Marine Le Pen. Il a perdu en réalité la primaire du camp national, Éric Zemmour.
Il a d'autant plus perdu que les thèmes sont les mêmes. Il a mal fou à faire entendre sa différence. J'avais fait pour le Figaro Magazine un tableau qui devait être le tableau des différences et des similitudes entre les programmes Rassemblement National, Reconquête, mais aussi Les Républicains en matière juste d'immigration. J'avais eu un mal fou, d'ailleurs je
n'ai trouvé les différences.
Je n'étais pas parvenue à trouver les différences. Alors chacun me disait non, ça n'a rien à voir, LR, nous on veut des murs pour empêcher les migrants de passer en Pologne, Reconquête, non, mais nous on fait des blocus maritimes, c'est complètement différent. Mais la vérité c'est que dans ce débat très frontal, où les arguments sont très frontaux, où vous êtes pour la protection, y compris armée, des frontières, enfin rien à voir avec l'Europe passoire que nous connaissons, l'externalisation des demandes d'asile, ce que ces trois parties demandent en dehors de l'Union européenne, ou alors vous pensez, comme Emmanuel Macron, qu'il suffit d'améliorer à la marge les systèmes de contrôle actuels. Il n'y a pas de place pour des nuances qui permettraient de compenser ce que décrit Alexandre, c'est-à-dire en fait le réflexe du vote utile.
Richard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que, d'après vous, ils peuvent disparaître?
Moi, j'ajoute très simplement que je pense que construire une force politique, ça prend énormément de temps. Alexandre parlait de Marine Le Pen et du temps qu'il lui avait fallu pour... la famille Le Pen, du Rassemblement National, ex-Front National, du temps qu'il lui avait fallu pour arriver là où elle en est. Donc, ça se compte en décennies. Jean-Luc Mélenchon aussi, la France Insoumise a mis du temps à éclore, à devenir une force politique conséquente dans le paysage politique. Donc... peut-être qu'il ne faut pas l'enterrer trop tôt.
Ce qui est intéressant, on n'a pas parlé de François-Xavier Bellamy. Il y a d'autant moins d'espace que LR, pour une fois, et pour la deuxième fois d'ailleurs, a choisi un candidat plutôt souverainiste, en réalité, si on regarde bien François Bellamy.
Après avoir
beaucoup hésité, mais pour une fois, la ligne de LR est à peu près claire. Et donc, il y a encore moins d'espace. Et en plus, qui est aussi conservateur et sur des questions sociétales, type on voit qu'il se dispute avec Marion Le Pen sur qui est en prend la tête du combat contre la GPA. Donc l'espace est très réduit. Par contre, ce qui est très intéressant en termes de dynamique pour la présidentielle, c'est que même avec cet espace réduit, bien 8 et 5 ou 6, ça fait quand même un score de 14. Si on on additionne avec les plus de 30% de Jordan Bardella, plus des candidats, alors Nicolas Dupont-Aignan finalement s'est retiré, mais il y a peut-être des petits candidats souverainistes en plus, où on arrive à une dynamique pour le camp national qui a plus de 40%, c'est quasiment du jamais vu. Donc là, en ce sens-là, il y a une recomposition qui s'opère et qui est même générationnelle.
Puis c'est Jordan... ça qui est intéressant.
Non, qui ne s'opère pas parce qu'elle est bloquée par les gens en place. Marine Le Pen ne veut pas entendre parler de l'union des droites, parce que ce qu'on est en train de décrire, c'est l'union des droites.
Mais en fait, elle va se faire... Moi, je crois que l'union des droites, j'ai jamais cru qu'elle pouvait se faire par des accords d'appareil, mais elle va se faire par des dynamiques électorales. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et ensuite, il y a une recomposition générationnelle. On voit que ce sont des listes portées plutôt par des jeunes, que ce soit...
Alors, il y a deux remarques à faire à ça qui est intéressante. C'est de se dire qu'effectivement, le discours des Républicains sur l'Europe, finalement, est pas loin d'être celui des Rassemblements nationaux et celui de Reconquête. Ça pose quand même beaucoup de questions.
Je nuancerai quand même.
Eh oui.
Je nuancerai quand même quand.
Parce que ça veut dire qu'ils sont pas uniformes.
La tête de liste. Parce que c'est bien leur problème. Quand on interroge les électeurs LR sur leur regard s'agissant de l'Europe, la construction européenne, ils sont plutôt proches dans leur réponse des électeurs de la majorité présidentielle, voire des électeurs potentiels de Raphaël Glucksmann. C'est le camp de la France du oui. Hein. On va fêter, ou pour certains, commémorer les 19 ans du référendum du 29 mai 2005. Et le clivage France du oui, France du non reste toujours pertinent. Par rapport à ce qu'a dit Alexandre, c'est vrai que les dynamiques électorales, déjà, on les voit, puisque dans l'enquête IFOP fiduciale pour le Figaro magazine, on a vu, alors bien sûr, ça ne veut absolument rien dire, c'est second tour où Marine Le Pen l'emporte systématiquement face à Édouard Philippe ou Gabriel Attal, parce que les électeurs de droite votent massivement pour Marine Le Pen. C'est plus serré sur Édouard Philippe.
Oui, enfin, moi, je retiens quand même que le positionnement européen de LR est loin d'être simple. Ça, c'est la première des choses, et c'est un problème majeur pour eux. La deuxième chose, je vous invite à lire l'appel de Mme Pécresse aujourd'hui, certes, qui a fait pas un grand score à la présidentielle de 4,5%, mais qui appelle pour 2027 à l'union des droites, sauf le Rassemblement national. Mais elle appelle à faire cause commune avec Reconquête. Donc, on va essayer de comprendre. Hein. Ouais. On a encore 3 ans. Alors là, maintenant, on va passer au coup de cœur et au coup de griffe. Si vous voulez bien, on va commencer par les coups de griffe.
Alors, mon coup de griffe, je reprends mes notes. Ouais. Mon coup de griffe, c'était encore, on en a déjà parlé, mais pour les étudiants qui, sous prétexte défendre les Palestiniens, ont bloqué Sciences Po et lancent des slogans antisionistes, antisémites. Ouais. Et tous ces braves gens et leurs homologues européens et américains, puisque vous savez que plein de facs américaines sont touchées par le même phénomène, ont reçu les félicitations et les encouragements de Ali Khamenei, qui est le guide de la révolution depuis la révolution des mollahs en Iran en 1979. Et lui, il est guide suprême depuis 89. Voilà. 10 ans après. C'est à lui qu'on doit en particulier la fatwa contre Salman Rushdie. C'est lui qui, plus récemment, a choisi Nasrallah comme chef du Hezbollah, parce qu'il est vraiment le protecteur du Hezbollah. Donc c'est quelqu'un de parfait qui décide des exécutions et des emprisonnements en Iran. C'est l'homme clé de la terreur du régime des mollahs, si vous voulez. Eh bien, il trouve ça formidable que tous ces étudiants occidentaux partagent sa haine d'Israël et des États-Unis. Il les encourage vivement à continuer.
Surtout que l'islamisme est né en grande partie en 1979 avec les discours de son prédécesseur qui s'appelait l'ayatollah Khomeini. Le coup de cœur.
Alors, le coup de cœur, ça nous ramène au sujet qu'on vient de quitter, qui sont les européennes, puisque Giorgia Meloni a annoncé hier qu'elle prendrait elle-même la liste de son mouvement, Fratelli d'Italie. Alors, c'est assez classique, en fait, en Italie, que les chefs de parti ou que les personnages actifs dans la politique intérieure cumulent leurs fonctions avec des têtes de liste. On sait déjà que quand elle sera élue, parce que ça ne fait aucun doute, elle sera élue puisque son parti est en tête dans les intentions de vote et largement en Italie, elle choisira de rester Premier ministre. Mais pourquoi c'est un coup de cœur ? Parce que je trouve que par rapport aux hypocrisies françaises, la méthode italienne a du bon. Parce que chez nous, on a des gens, je pense évidemment spécifiquement à Emmanuel Macron, qui font une campagne clandestine et qui s'empresseront de nous dire que le résultat, qui sera une défaite, fort probablement, ne les concerne absolument pas, alors qu'ils se seront engagés. Elle, au moins, elle va au combat et elle pourra revendiquer le score.
C'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire ici.
Ça a été le cas en France pendant très longtemps. Les chefs de parti, les figures...
Oui, mais elle est les premières ministres, elle, quand même.
Oui, c'est vrai, on n'a jamais eu ça en France. Mais ça a été le cas, fut un temps, c'est plus tout le cas aujourd'hui.
Oui, c'était les chefs de parti aujourd'hui.
En 1979, François Mitterrand, Georges Marchais, Jacques Chirac, il n'y a que Simone Veil, mais qui représentait...
Sarkozy.
Giscard d'Estaing, oui, tout à fait.
Sarkozy en 1999, oui.
C'est mal fini.
Alexandre, votre coup de... Griffe.
Alors, coup de griffe, c'est Emmanuel Macron, mais plus largement la campagne européenne, puisqu'il y a des enjeux, à mon avis, très lourds, qui ont été très peu abordés, qui font un peu... Emmanuel Macron, parce qu'il veut mutualiser le nucléaire français, donc c'est, là, c'est une question sur la souveraineté qui est très importante, et il y a aussi un sujet dont on parle moins, et Emmanuel Macron, il y est favorable, ça aurait des conséquences très lourdes, c'est le passage, justement, sur les questions de défense et de politique étrangère, du vote à l'unanimité au vote à la majorité.
Qualifié.
On sait que l'Allemagne ne peut pas être mise en minorité, donc c'est brader notre souveraineté sur des enjeux aussi stratégiques que la défense et la politique étrangère. Et on se demande parfois si Emmanuel Macron ne pense pas déjà à son avenir politique. Et donc, il n'est pas en train de troquer la souveraineté française contre un poste de président de la Commission ou je ne sais quoi. Bon, je fais des supputations. Hein.
Enfin,
je n'ai pas de preuves. Et ensuite, je suis d'accord, je partage le coup de griffe sur les étudiants de Judith, sur les étudiants de Sciences Po. Et j'ajouterais que ce qu'il y a de pathétique là-dedans, au-delà des relents d'antisémitisme, d'islamo-gauchisme, c'est la très grande bêtise. C'est quand même, Sciences Po, c'est censé être l'école de formation des élites, effectivement, qui ne savent pas situer la Palestine sur une carte, qui confondent un génocide avec des bombardements militaires. Ça montre quelque chose d'une certaine décadence des élites et des futures élites occidentales. Donc de ce point de vue, c'est inquiétant. Et pour aller jusqu'au bout et faire comme je dis de parler de la révolution islamique, il y a beaucoup de wokistes là-dedans, donc des gens qui sont très engagés sur les questions LGBT, trans, etc. Rappelons les positions justement des islamistes sur tout ça. Donc,
et leurs actes
ce qui s'est passé pendant la révolution islamique, une alliance entre les gauchistes, enfin les communistes et les islamistes. À la fin, les gauchistes se sont fait couper la tête, donc certains devraient faire attention aux alliances qui sont en train
de...
Voilà.
Coup de cœur.
Ah oui, en fait, j'ai dit deux coups de gueule, il n'y avait pas de...
Alors d'accord,
tant pis, je suis un ronchon alors.
Alors,
je vais vous commenter parce qu'en écoutant Judith, j'ai pensé à un coup de griffe, c'est le silence face à la condamnation à mort de ce rappeur iranien du côté du monde du rap et du côté du monde étudiantien qui traditionnellement se mobilise toujours contre la peine de mort, mais peut-être que quand ça vient d'Iran, on se tait. Mon coup de griffe, on en a parlé, c'est Mathilde Panot, elle a, il y a quelques jours, remis en cause le Rolling Ifop fiduciaire en disant qu'il était truqué et faux. Alors, je ne vais pas faire de fait corporatisme, mais c'est toujours une attitude assez immature de la France insoumise de relayer positivement, notamment sur Twitter, sur X, quand des sondages leur sont favorables et dire qu'il est faux, truqué, venant du grand capital, quand c'est un sondage qui ne leur plaît pas. Mathilde Panot, dans cette émission sur BFM, je crois, avait dit qu'elle allait déposer un recours à la commission des sondages. C'était il y a 3 semaines, ce recours n'est toujours pas, si je puis dire, déposé. Et mon coup de cœur, c'est la France insoumise. Comme ça, on est relativement équilibré. Je trouve très bien.
Le téléphone ne va pas sonner.
Non, non, bah, il sonnera peut-être pour le premier. c'est bien d'inciter les jeunes électeurs à aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est jusqu'au 2 mai. Traditionnellement, avant, il fallait s'inscrire jusqu'au 31 décembre précédant l'élection. Oui. Maintenant, il y a beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas inscrits. C'est vrai qu'on... C'est un peu dommage de voir moins de communication des pouvoirs publics. Avant, il y avait le CIC
c'est vrai.
Incitait les jeunes à aller voter ou les Français à aller s'inscrire.
Bah, LFI n'est quand même pas le seul, les seuls à le faire. Mais et ils le font avec des méthodes qui interrogent quand même sur...
Bien sûr, mais il
pense à la campagne d'affichage.
Fait partisane, personne ne l'a fait avec autant de force. Mais on sait pourquoi. Peut-être.
Richard.
Coup de griffe, moi, petit pas de côté aux contrôleurs aériens. Un sujet qui ne paraît pas forcément politique, mais qui me semble, moi, évidemment politique.
Il l'est quand même.
Contrôleurs aériens qui ont profité des JO pour mettre une pression folle sur la DGAC, qui est l'institution publique qui les emploie, et qui ont obtenu des gains de salaire considérables. Voilà, donc c'est toujours un peu... la SNCF, les cheminots l'avaient fait quelques jours avant eux. Donc, gros coup de griffe.
Mais mettant jusqu'à remettre en cause et en question la réforme des retraites. Hein.
Voilà, exactement. Et coup de cœur, pour l'entretien de Jérôme Guedj, qui est un député socialiste dans la Tribune du dimanche hier, et qui a un discours tout en nuance sur la question sur Sciences Po, sur Gaza, et qui condamne un certain nombre d'actes comme on a pu le faire ici. Et donc, ça fait du bien d'entendre à gauche des voix qui assument leur position, et c'est très bien comme ça.
Il a quitté la NUPES, il rend son siège qu'il a obtenu grâce à la NUPES. Voilà,
mais il a quand même un discours plus nuancé que les Insoumis, qui sont plein de frasques et de... Donc, voilà.
Alors, ça fait longtemps, hein.
Oui,
faut le dire quand même. Et puis, effectivement,
ça ne l'a pas empêché.
Ça ne l'empêche pas de rester à la NUPES, de garder son siège.
Enfin, il a quand même dit que la NUPES était morte. Hein.
Il a pas
Certes, mais il l'a quand même bien défendu jusqu'à présent. Donc,